Puis je vous rappelle encore, si vous avez un besoin qu'on prie pour vous, un besoin pour votre santé, un besoin quelconque, physique, spirituel, émotionnel, venez, on est là. Ne vous privez surtout pas de ce que le Seigneur a pourvu dans sa parole pour ses brebis, le soin des bergers. Hein? Il se passe quelque chose. Quand les bergers prient pour les brebis, le Seigneur aime ça et il agit. Fait que gênez-vous pas. Peu importe la situation, situation familiale, conflit, peu importe, couple, venez et on va prier pour vous, ça va nous faire plaisir. Donc, pour ceux-là qui sont avec nous pour la première fois, hein, comment ça fait qu'on a perdu encore? On a changé de source? Désolé. OK. On est en train, depuis quelques mois, de suivre un thème, c'est comment résoudre les conflits. Parce que les conflits, c'est ça, un coup que c'est résolu, c'est fini, on n'a plus après ça. Hein? Non, c'est quelque chose qui fait partie, malheureusement, de notre quotidien. Et est-ce que la parole de Dieu a dit quelque chose sur comment résoudre les conflits? Ben oui, le Seigneur Jésus nous en dit plein. La parole de Dieu nous en dit plein, et ces outils-là sont précieux. Et il faut les mettre dans notre sac à outils pour quand il arrive un conflit, on se rappelle, OK, maintenant, de quelle façon je devrais procéder? De quelle façon que cette situation-là peut glorifier le Seigneur? Donc, ce matin, on va regarder... un sujet bien particulier, c'est les conséquences du refus de pardonner. Je cite ici un auteur, Nancy Lee DeMoss, dans « Choisir le pardon », un livre qui m'a été donné. Puis en passant, là, comment on fait pour choisir les sujets de prédication le dimanche? On décide comme ça de nous-mêmes? Non, c'est dans la prière, on prie, on demande au Seigneur de nous diriger à travers nos lectures, à travers ce que le Saint-Esprit nous met à cœur. Puis j'avais déjà cette idée-là qui m'était venue de parler du refus de pardonner. On a parlé comment pardonner, mais du refus de pardonner. Et là, ma sœur m'a donné ce livre-là et je commençais à lire et ça allait dans la même direction. Puis ça, combien de fois que ça est arrivé dans les 30 dernières années, que le Seigneur confirme une direction dans la prédication et là, on sait que ça vient de lui. Amen. Fait que j'aimerais, comme Paul dit, que vous preniez ce message, non pas comme en venant de moi, mais de Dieu lui-même. Donc, Nancy DeMoss a dit, « L'orientation de notre vie n'est pas déterminée par ce qui nous arrive, mais par la façon dont nous réagissons aux événements. » Bien souvent, nous ne choisissons pas ce qui nous arrive, je dirais la plupart du temps. Hein? En revanche, nous avons le choix quant à notre manière de réagir aux épreuves de la vie, et ce sont ces réactions qui décident de l'orientation de notre existence. Je vous assure qu'accepter cette vérité, c'est faire le premier pas vers la liberté. Ça peut paraître dur, surtout si on vit des choses très difficiles, hein? Des situations familiales catastrophiques, des situations de santé catastrophiques, des situations de travail catastrophiques. Ça peut paraître dur de dire ça. Mais ce n'est pas de minimiser les souffrances, ce n'est pas de minimiser ce que les gens vivent que de dire ça, mais c'est la vérité pareille. Puis on a vu avant les fêtes que la maturité, hein, quelqu'un de mature, on va dire c'est quelqu'un de responsable, bien c'est qu'on est responsable de nos actions et de nos réactions également. En bout de ligne, des fois, oui, on réagit sur le coup, mais en bout de ligne, comment on va réagir? Et c'est ça qui va décider de l'orientation de notre existence. Une autre citation. Toute vengeance, parce que là, on parle de refus de pardonner. Puis quand on refuse de pardonner, bien, qu'est-ce qu'on recherche? C'est la vengeance. Toute vengeance est semblable à un poison, et si nous n'en prenons pas au point d'attenter à nos jours, à notre vie, Le peu que nous ingérons contamine la totalité de notre masse sanguine et il est bien difficile alors de recouvrer la santé. Écoutez, c'est un pasteur qui a vécu dans le 17e siècle qui a dit ça. Imaginez. Et c'est encore vrai aujourd'hui. Donc, j'aimerais que vous tourniez avec moi dans vos Bibles, si vous les avez, à Matthieu 18. On va reprendre une portion des Écritures qu'on a déjà regardée dans ce cours, mais on va développer un aspect qu'on n'a pas encore développé. Donc, l'Évangile de Matthieu 18, au verset 23. Et même, on va commencer au verset 21 pour se remettre dans le contexte. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? » Serait-ce jusqu'à 7 fois? Il pensait en mettre beaucoup, là. 7 fois, là. Jésus lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7. » Et là, il raconte une histoire pour illustrer qu'est-ce qu'il veut dire par là ou pourquoi il dit ça. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, bien là, il s'aperçut que ça ne balançait plus dans les livres. Et quand il s'est mis à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. C'est une somme astronomique. C'est plusieurs millions de dollars, c'est quelque chose comme 200 millions de dollars, c'est astronomique. Et comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il soit vendu, lui, sa femme, ses enfants, tout ce qu'il avait, et que la dette soit acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui, dit, « Seigneur, aie patience envers moi, et je te paierai tout. » Est-ce que c'était vraiment quelque chose de réaliste que de s'attendre à ce qu'il repaye tout? Non. Mais, ému de compassion, le maître de ce serviteur, ému de compassion, hein? Pas parce qu'il attendait que l'autre paye, là. Pas parce qu'il était convaincu que, ben oui, c'est vrai, si j'attends, ils vont me rembourser. Non, non. Ému de quoi? De compassion. Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette en plus. C'est pas juste qu'il a dit, OK, je vais te donner une chance pour me repayer. Il dit, je te remets la dette en entier. Wow! C'est extraordinaire, là. On parle d'une somme astronomique. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. C'est à peu près, je ne sais pas, quelques centaines de dollars, là. Il le saisit, l'étranglait, en disant, « Paye ce que tu me dois. » Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait, disant, « Aie patience envers moi et je te paierai. » Ah, on a déjà entendu ça, cette phrase-là, hein? Mais l'autre ne voulut pas. Il allait le jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés. Ils allaient raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur, lui dit, « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié ou compassion de toi? » Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Prions, je pense qu'on en a besoin. Oui, Seigneur Dieu, merci pour ce temps merveilleux ensemble, en famille. Nous sommes sous ton regard ce matin, Père. Et comme on a chanté, qui pourrait se tenir devant toi dans toute ta sainteté, n'eût été de Jésus, de sa mort sur la croix pour nous sauver. Père, je te demande de nous guider par ton esprit dans toute la vérité. Le Seigneur, Jésus, toi le soleil levant, viens éclairer nos cœurs, chasse toute obscurité dans nos cœurs. On veut entendre ta voix seule qui nous parle ce matin, par ton esprit, ta parole. À toi la gloire, à toi la majesté, à toi la force et l'autorité, dès maintenant et pour tous les siècles. Amen. Amen. Ici, encore, comme je fais depuis un certain temps, je vous donne le punch de l'enseignement. Et puis, si vous voulez le prendre en note puis partir, jouir de la belle journée, vous pouvez le faire. Le pardon est un choix difficile à d'obéir à Dieu. Il faut se l'admettre. Le pardon est un choix difficile, mais le refus de pardonner entraîne des conséquences beaucoup plus difficiles puisqu'il nous prive de la grâce de Dieu. Ça, c'est le résumé du message ce matin. Le pardon est un choix difficile. Comme on a vu dans la première citation, ce n'est pas les choses qui nous arrivent, c'est comment on réagit aux choses qui nous arrivent. Donc, de pardonner, c'est un choix difficile, même des fois impossible. Souvent, moi, je crie à Dieu, je dis, « Aide-moi, Seigneur, je ne suis pas capable. Aide-moi à pardonner, je ne suis pas capable. » Mais c'est un choix difficile, mais un choix d'obéissance à Dieu. Et si on refuse, ça entraîne des conséquences. Donc, ce matin, on regarde c'est quoi les conséquences de refuser de pardonner. Puis, en gros, ça se résume à se priver de la grâce de Dieu. Et on va regarder, on va essayer de déballer c'est quoi ça, se priver de la gloire de Dieu avec les Écritures. Ça marche? Donc, avant d'aller plus loin, je veux juste vous situer dans le cours. On est... Dans le cours, on a 5 R. Lorsqu'il y a un conflit, la première chose à se poser, c'est comment je peux rendre gloire à Dieu dans cette situation. Autrement dit, comment je peux inviter Dieu à venir faire partie de l'équation? Comment, par mes paroles, par mes réactions, je peux honorer le Seigneur Jésus dans cette situation-là? Parce que vous êtes d'accord avec moi, sûrement, que quand on arrive dans un conflit, qu'est-ce qui se passe? On se retourne sur soi-même. Puis Dieu, il ne fait plus partie du portrait, là. Puis là, on réagit en fonction de nos blessures. On réagit en colère, on réagit avec désir de justice, on réagit de toutes sortes de façons, mais on oublie. Hey, Dieu, il est où dans ton équation, là? Et comment tu vas vivre ça, ce conflit-là? Est-ce que ça va glorifier Dieu? Donc, de s'arrêter puis de se poser la question, parce qu'en toute chose, nous devons glorifier Dieu. En toute chose, en toutes circonstances. Donc, ça, c'est le premier R, rendre gloire à Dieu ou rechercher la gloire de Dieu, l'inviter à venir faire partie de l'équation. La deuxième chose qui est contre nature, qui est l'opposé de ce qu'on fait naturellement, c'est de s'examiner soi-même pour voir est-ce que j'ai une part, aussi petite soit-elle, dans le conflit. Est-ce que c'est ça la nature de l'être humain? Non? Regarde ce que tu as fait. Regarde ce que tu m'as fait. Et l'autre dit, regarde-toi ce que tu m'as fait. Et ça monte, exactement, ça monte. Et là, on ramène des choses du passé même, pour en mettre. Hein? Fait que, c'est de retirer la poutre. D'où viennent ces principes-là? Ils viennent des Écritures. C'est Jésus lui-même qui a dit, avant d'essayer d'enlever la paille ou le brindis dans l'œil de ton frère, enlève premièrement la poutre et après tu verras clair. Donc, retirer la poutre, est-ce que c'est naturel? Non, ce n'est pas naturel. Mais c'est surnaturel. Ensuite, relâcher la dette, pardonner. Et là, on a vu la dernière fois, avant les fêtes, comment pardonner, comment arriver à pardonner vraiment. Et puis là, ce matin, on regarde c'est quoi les conséquences de refuser de pardonner. Parce que pardonner, c'est un choix. Mais le Saint-Esprit m'a mis à cœur de vous parler des conséquences de refuser de pardonner. Ça marche? Puis les deux auteurs s'est redressé avec douceur et rechercher la réconciliation. Mais premièrement, pourquoi pardonner? Bien, selon les Écritures, c'est parce que Dieu nous a pardonné, selon la parabole qu'on voit ici. Ça commence avec Dieu. Et ça commence avec ta relation avec Dieu. Donc, Éphésiens 4, 32 nous dit « Soyons bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. » C'est des passages qu'on a déjà vus. Colossiens 3, 13 « Supportez-vous les uns les autres, et si l'un de vous a quelque chose à reprocher à un autre, pardonnez-vous mutuellement. Le Seigneur vous a pardonné. Vous aussi, pardonnez-vous de la même manière. » Colossiens 2, 13, 14 « Et vous, » je ne sais pas si je l'avais marqué. Oui. Et vous, ça on l'a vu. Et vous qui étiez morts à cause de vos fautes, parce que vous étiez des incirconcis, ça veut dire faisant pas partie du peuple de Dieu, des païens, Dieu vous a donné la vie avec Christ et nous a pardonné toutes nos fautes, car il a annulé l'acte qui établissait nos manquements à l'égard des commandements. Oui, il a effacé le clouant à la croix. J'ai-tu besoin de le faire là, encore, là? Le clouant à la croix, pour ceux qui n'étaient pas là? Qu'est-ce que Dieu a fait avec tes péchés? Il les a cloués à la croix. Et ce matin, si tu n'as jamais expérimenté ce pardon-là, tu te demandes de quoi il parle, Brian, là, ce matin? Bien, la Bible nous dit que nous sommes tous des pécheurs, que Dieu est trois fois saint, et qu'à cause de ça, on ne peut pas entrer dans sa présence. Et que si on meurt de cette façon-là, il y a un jugement après, et on ne passera pas le jugement. Comment tu peux être sûr de ça? Bien, parce que Dieu a envoyé Jésus, justement. Dieu a envoyé Jésus pour mourir à la croix. À la croix, Dieu prouve en même temps, à la fois, son amour et sa justice. Sa justice, parce qu'on voit par là que Dieu ne peut pas tolérer le péché, Dieu ne peut pas laisser passer le péché, sinon Jésus ne serait pas mort à la croix. Jésus a pris sur lui tes péchés. C'est ça qui est tout l'enseignement de l'Évangile. Et de l'autre côté, on voit l'amour de Dieu, parce qu'il fait pour toi, pour que tu ne sois pas jugé. Donc, si tu n'as jamais expérimenté ce pardon-là, ce qu'il faut faire, c'est de se tourner envers Dieu, dit Dieu, reconnais que tu es pécheur, reconnais que tu as fait des choses pas correctes face à Dieu. Dire, oui Dieu, je mérite ton jugement, mais merci, merci d'avoir envoyé Jésus à la croix à ma place, pour moi. Et reçois son pardon. Reçois. Et si tu fais ça, la Bible dit, tu es sauvé. Tu es sauvé de quoi? Tu es sauvé du jugement de Dieu. Et tu deviens son enfant. Et puis, si ce n'est pas le cas encore, bien, si tu veux nous parler de ton cheminement spirituel, on est là, on est ouvert à tout ça. Donc, pourquoi pardonner? Parce que c'est l'Évangile. L'Évangile, c'est la bonne nouvelle du pardon des péchés en Jésus-Christ, notre Sauveur. Parce que Dieu t'a pardonné, c'est un incontournable. Alors, pourquoi pardonner? Parce que Dieu t'a pardonné et parce que refuser de pardonner t'apportera de lourdes conséquences. Fait que ça, la première partie, on l'a vu, on l'a examiné pas mal. La deuxième, c'est nouveau ce matin. Puis, dans la parabole qu'on vient de lire, bien, souvent on passe vite sur les deux derniers versets. On les lit, puis là, on continue. On focus sur le fait que celui qui avait été pardonné les centaines de millions de dollars, il ne pardonne pas à l'autre, puis qu'il devrait pardonner. Ça, c'est la première partie, parce qu'il a été pardonné. Il devrait pardonner, n'est-ce pas? C'est l'Évangile. Jésus dit dans la prière de notre Père, « Pardonne-nous nos torts envers toi, comme nous pardonnons nous-mêmes les autres. » Refuser, c'est incompatible avec cet Évangile que tu as accepté et qui est censé de te transformer. Mais la deuxième partie, c'est que sinon, il y a des conséquences. Il y a des conséquences graves. Puis ce matin, je ne veux pas que ce soit quelque chose de négatif ce matin. Ce n'est pas pour décourager, mais je pense que c'est un avertissement important. Et d'avertir dans l'amour, c'est très important. Sinon, on partirait tous les deux en expédition pour le Mont Everest. Puis, mettons, je suis un guide expérimenté, et puis que je te dis pas qu'est-ce que tu dois faire et pas faire, tu peux laisser ta vie là, sur le Mont Everest, n'est-ce pas? Donc, d'avertir quelqu'un au danger, c'est une preuve d'amour. Donc, c'est par amour que je vous parle de ces choses-là. Donc, revenons dans notre texte de Matthieu 18. On avait déjà lu cette parabole pour montrer clairement que quand on est offensé par quelqu'un, c'est comme si l'autre a une dette envers nous. Hein? Jésus, il répond à la question de Pierre, « Combien de fois je dois pardonner? » Pardonner quoi? Pardonner une dette. Et Jésus parle de l'offense comme étant une dette. Ça, on l'a vu. Et qu'est-ce qu'on fait avec les dettes? On les cloue à la croix, comme Dieu a fait avec nous. Puis ça, si vous voulez l'écouter, en passant, on a tous les enseignements sur le web, sur le site web de l'Église, grâce à Maurice. Merci beaucoup, Maurice. Puis Jonathan, comment arriver à pardonner, je vous encourage à l'écouter. Mais aujourd'hui, on va s'arrêter davantage aux deux derniers versets, comme j'ai dit. C'est au dernier verset, au verset 35, que Jésus dit quelque chose de foudroyant. Il dit, « C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. » Bon. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère. C'est quoi l'ainsi? Il fait référence à quoi? À ce qui vient avant, dans le verset avant. Comment le Père va traiter quelqu'un qui refuse de pardonner à son frère? Bien, si on recule d'un verset, et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. Là, tu vas me dire, attends un peu, là, Brian, là, ça ne s'applique pas à nous autres. Ça c'est le jugement éternel. Ah oui, OK. Attendons un petit peu. C'est quoi que ça veut dire, ça? Son maître irrité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait, et mon père va vous traiter ainsi. Ça veut dire quoi? Est-ce qu'il parle du châtiment éternel? Il parle de l'enfer ici? Non. Non, pour deux raisons. La première, c'est qu'il dit, il ne sortira pas jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. Donc, il y a un terme au châtiment dans le verset. Là. Mais le châtiment éternel, lui, il est éternel. Il n'y a pas de fin à ça. Là. Il n'y a pas de fin. Jésus a dit... Dans Marc 9, 48, il a dit à plus qu'une reprise que l'enfer, c'est un lieu où le ver rongeur ne meurt point et où le feu ne s'éteint jamais. Le châtiment, c'est un châtiment, le dernier châtiment, le dernier jugement, c'est un jugement éternel. Alors qu'ici, évidemment, il y a une possibilité de s'en sortir. Deuxième raison pourquoi il ne parle pas de châtiment éternel, c'est qu'il dit, il ne sortira pas jusqu'à temps qu'il ait tout payé. Est-ce que c'est possible de payer pour tes péchés par tes efforts? Non. Non, sinon Jésus, il serait mort à la croix. Pourquoi? Pour rien. Alors, on sait que le seul paiement efficace pour le péché, c'est le sang de Christ. Donc, il ne parle pas du châtiment éternel ici. C'est impossible. De quoi il parle? Le Seigneur Jésus dit dans Matthieu 5, 26, lorsqu'il parle encore de la réconciliation entre deux frères, il dit d'aller se réconcilier, sinon le juge te livrera au huissier et tu seras mis en prison. Et il dit, et là vraiment, je te l'assure, tu n'en sortiras pas avant d'avoir remboursé jusqu'au dernier centime. Oh, c'est comme parallèle. C'est pas le même passage du tout. Là. Mais Jésus répète la même chose deux fois. « Te livreras aux prisons, tu seras mis en prison. » Donc, nous avons un enseignement très clair et répété du Seigneur Jésus à l'effet que si tu refuses de pardonner dans ton cœur, tu seras livré au bourreau et mis en prison. Wow! C'est quoi que ça signifie, ça? Bien, premièrement, on a une belle photo de la prison d'Alcatraz, ici, une des prisons les plus renommées dans l'histoire. Premièrement, c'est quoi la prison? Bien, la prison, c'est que tu es enfermé. Tu es privé de liberté. C'est un endroit où tu n'es plus libre de tes actions. Tu ne fais pas ce que tu aimerais faire. Tu es limité. Et spirituellement, Jésus emploie un terme figuré, oui, mais ce n'est pas par hasard qu'il prend ce terme-là. Langage figuré, c'est quoi? C'est qu'on prend quelque chose de connu pour illustrer une réalité autre. Donc, Jésus prend quelque chose de connu pour illustrer une réalité spirituelle. Ce n'est pas juste un beau langage là, figuré. Donc, une prison, c'est un endroit où ce que tu es privé de liberté. Et spirituellement, qu'est-ce que ça signifie? C'est que tu n'as plus d'impact spirituel autour de toi. C'est très limité. Auparavant, toi qui étais ciselé pour annoncer la bonne nouvelle à ton entourage, toi qui servais avec fidélité tes frères et sœurs, et de qui on voyait rayonner la bonté et l'amour de Dieu, te voilà réduit au silence, immobile, incapable de te motiver. Frères et sœurs, si tu es limité dans ta vie spirituelle, si tu trouves que tu n'accomplis pas grand-chose, eh bien, que tu n'as pas de puissance spirituelle, peut-être devrais-tu te poser la question, est-ce qu'il y a quelqu'un à qui je n'ai pas pardonné dans mon cœur? Dans mon cœur. Parce qu'il y a deux aspects du pardon. Ça, on ne l'a pas vu nécessairement. Peut-être certains savent déjà, mais il y a premièrement le pardon dans le cœur. Et ça, c'est indépendamment de l'autre personne. C'est vis-à-vis Dieu. Puisque tu m'as pardonné, je le pardonne de tout mon cœur, comme dit Jésus. Après ça, il y a l'accord du pardon. On accorde le pardon. Lorsque l'autre personne demande pardon, là, on accorde le pardon. OK? Ça, c'est deux choses différentes. Mais la première chose, on n'a aucune excuse de ne pas pardonner dans notre cœur. L'accord du pardon est conditionnel. Le pardon de cœur est inconditionnel. Ça ne dépend pas de l'autre, ça dépend de lui. À cause du pardon que j'ai reçu, je pardonne. Mais accorder le pardon, ça dépend. Si l'autre se repent, Jésus dit, pardonne-le. Comprenez? Ça, c'est accorder le pardon. C'est une autre étape. Donc, c'est ça. Si on se trouve limité spirituellement, on n'a pas de puissance, on n'a plus d'impact, on n'a plus de zèle, peut-être que dans mon cœur, il y a quelqu'un à qui j'ai refusé de pardonner. Deuxièmement, la prison, c'est un lieu où ce que tu es séquestré. Ça veut dire que tu es privé de relations. La prison, c'est un lieu de solitude, privé de relations avec ta famille et tes amis. Et le refus de pardonner va te conduire à la solitude. Pourquoi? Parce que refuser de pardonner, c'est se refermer. Le cœur devient froid, insensible, et les relations deviennent froides, distantes, et tu vis la solitude. La prison spirituelle, c'est ça. Et pire encore, cet état s'étend à ta relation avec ton Père céleste qui t'aime tant. La relation devient froide, distante, sans vie. Si tu m'écoutes ce matin et tu te dis, oui, ça me ressemble un peu quand même. Alors, se pourrait-il que l'Esprit de Dieu soit en train de te montrer par là, mon frère, ma sœur, qu'il y a quelqu'un à qui tu n'as pas pardonné, même si c'est très loin dans le passé? Des fois, on oublie ou on essaie d'oublier. Même si tu n'y penses plus consciemment à cette personne-là. J'aimerais vous lire un petit extrait du livre de Lancy Demoss, justement, pour illustrer ce concept. C'est une lettre qu'elle a reçue un jour d'un jeune homme. Il était diacre d'une église et elle dit, ça illustre de façon frappante comment ces sentiments peuvent être profonds et comment leurs effets peuvent être considérables et durables. Elle montre aussi le mal que les personnes blessées peuvent se donner parfois pour essayer de gérer leur souffrance. Voici la lettre. Il dit, « Mon père nous a quittés alors que j'avais 2 ans. J'avais tant besoin d'un père. Je le haïssais de m'avoir abandonné. Je le haïssais tellement que je souhaitais qu'il meure et aille en enfer. J'ai grandi dans une région de montagne où il y avait beaucoup de superstitions. On dit, par exemple, que si on plante un clou dans un arbre, en prononçant le nom de quelqu'un, cette personne mourra. Il y avait un grand pin près de notre maison. J'y suis allé jour après jour pour enfoncer des clous en prononçant le nom de mon père. J'ignore combien j'en ai planté, mais mon père n'est pas mort. Je le haïssais terriblement. Cette haine que j'ai nourrie envers mon père a détruit mon premier mariage. C'est quoi le rapport? C'est quoi le rapport entre la haine pour son père et la destruction de son mariage? C'est que son âme était en prison. Son âme, son cœur était fermé, froid, incapable d'aimer véritablement. Et ça l'a conduit, et lui-même le dit. Cette haine que j'ai nourrie envers mon père a détruit mon premier mariage et est en train de détruire le second, un diacre dans l'Église. Je suis tellement endurci que je suis incapable de me lier avec quiconque. Voyez-vous? Privé de relations. Troisièmement, la prison, c'est un lieu de tourment. Tu es tourmenté. Tu es privé du bien-être. À l'époque de Jésus, c'était un lieu de souffrance physique. Aujourd'hui, on peut parler davantage de souffrance morale ou psychologique. Mais Jésus parle que la personne qui refuse de pardonner va être livrée au bourreau. C'est quoi un bourreau? Un bourreau, selon la définition du dictionnaire, c'est celui qui exécute les peines corporelles ordonnée par une cour de justice, une personne qui martyrise quelqu'un physiquement ou moralement. Un bourreau. Est-ce que ça te fait penser à quelqu'un? Oui. Dans le monde spirituel, il y a des bourreaux. Il y en a un chef, il s'appelle Satan. C'est un bourreau. Il y a plein de petits bourreaux avec lui. Et leur plaisir, c'est de nous faire mal. De détruire, de tuer. D'opprimer, d'enchaîner les humains et de les conduire jusqu'à la mort physique et spirituelle. Maintenant, écoutez ceci. Jésus dit dans Matthieu 18, 34-35, que le Père va livrer au bourreau celui qui refuse de pardonner de tout son cœur. Ce qu'il faut comprendre, chers amis, c'est que ces bourreaux existent vraiment dans le monde spirituel, mais qu'ils ne peuvent rien contre les enfants de Dieu, à moins que Dieu autorise. Et ça, c'est très clairement illustré par le récit de Job, où ce que Satan demande à Dieu de pouvoir faire du mal à Job, et Dieu est réticent, il ne veut pas trop. Mais Job, il dit, garde, il te sert parce que tu le protèges. Autrement dit, Dieu ne t'est pas digne d'être aimé pour qui tu es. Job, il t'aime vraiment pour ce que tu lui donnes, la protection, la prospérité et tout ça, là. Enlève-y ça, puis il va se détourner de toi. Fait que Dieu dit, OK, on va faire l'expérience. Mais c'est à contre-cœur. On voit que c'est à contre-cœur que Dieu fait ça. Et Job, lui, il ne comprend rien. C'est quoi qui se passe? Hein? Mais nous, on le sait parce qu'on connaît ce qui se passe en arrière-scène. La Bible nous présente sous la protection les enfants de Dieu, ceux qui ont placé leur foi en Jésus-Christ et qui sont devenus ses enfants, sont sous sa protection. Et rien ni personne ne peut les arracher de sa main. Et rien ni personne ne peut les atteindre si Dieu ne le permet pas. Amen. Donc, par le fait de refuser de pardonner, écoutez bien, par le fait de refuser de pardonner, tu es en train, effectivement, de te rebeller contre Dieu et de sortir de sous sa protection. Et qu'est-ce qu'il y a en dehors de la protection? Il y a des bourreaux. Et celui contre qui tu as cette crotte sur le cœur que tu mets en prison jusqu'à temps qu'il te paye, parce qu'on a dit, hein, quelqu'un qui t'a fait du mal, là, c'est comme il me doit quelque chose, il va payer, là. Mais tu le mets dans ton cœur, tu le mets en prison jusqu'à temps qu'il te paye. En fait, c'est toi qui te mets en prison. C'est toi qui te mets en prison. Et par ta rébellion de refuser, parce que c'est une rébellion de refuser de pardonner, puisque Dieu dit pardonne. Pardonne. Et tu dis non, moi je ne pardonne pas à cette personne-là. C'est trop grave ce qu'elle a fait. Encore une fois, ce n'est pas de minimiser, frères et sœurs, ce que l'autre a fait. Il y a des choses graves, effectivement. Il y a des choses très graves. Ce n'est pas de minimiser. Et ce matin, on n'est pas en train de dire que c'est correct ce que la personne a fait parce qu'il faut que tu lui pardonnes. Ça ne veut pas dire que ça justifie ce que la personne a fait. Ça, je l'ai déjà dit, je le répète. Ce n'est pas parce que tu pardonnes que ça justifie ce que la personne... Et tu n'es pas en train de dire c'est correct ce qu'il a fait. Non. Non, 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 non. Des fois, on refuse de pardonner parce qu'on dit c'est pas correct. Bien, tu n'es pas en train de dire que c'est correct, là. En fait, la profondeur de ton pardon va être égale à la profondeur de la souffrance que tu vis par rapport à ce que l'autre personne a fait. Mais c'est qu'est-ce que tu fais avec cette souffrance-là? Qu'est-ce que tu fais avec cette dette-là? Il faut que tu l'amènes et que tu la cloues à la croix, comme on a vu. Donc, c'est ça la volonté de Dieu pour chacun de ses enfants. Mais si on refuse, Dieu considère ça comme étant très grave. Parce que tu refuses sa grâce à lui, son pardon à lui. C'est comme si ça, là, ça ne veut rien dire, ça n'a pas d'importance, ça n'a pas de valeur, ce que tu m'as pardonné, moi, c'est l'autre qui m'a fait du tort qui va payer, là. Voyez-vous, là? C'est comme si on méprise la grâce de Dieu. Et c'est grave. Et là, c'est comme si tu étais échappé dessous l'aile protectrice de Dieu. Et des fois, Dieu peut nous ramener, mais des fois, il va nous laisser aller. À nos propres choix. Pourquoi? Pour nous détruire, non? Pour voir où va mener nos choix. Où est-ce que ça va nous mener? Cette notion de nous livrer à nos propres décisions est très clairement présentée dans Romains chapitre 1. Hein? Dans Romains chapitre 1, Paul fait l'historique de la race humaine. Comme quoi, au début, au lieu de glorifier Dieu pour qui il est, parce qu'il se révèle dans sa nature ses attributs extraordinaires, bien, l'homme a refusé de glorifier Dieu. Et là, commence une série de pas vers les ténèbres. Et à un moment donné, trois fois dans ce passage-là, qu'est-ce qu'il est dit? Dieu les livra. Ouf! Ça, c'est un jugement. Quand Dieu livre l'homme à lui-même, là, c'est un jugement grave. Trois fois, Paul dit, Dieu les livra à leurs désirs, Dieu les livra à leurs pensées, Dieu les livra à leur impureté. Et c'est pas ça qu'il voulait. Mais il les a laissés aller. Et c'est là, en dehors de la protection divine, que vivent les bourreaux. Dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, Paul en faisait référence à un homme qui avait offensé l'Église, mais qui s'était repenti, dit ceci, « Celui à qui vous accordez le pardon, je lui pardonne moi aussi. Et si j'ai pardonné, je l'ai fait à cause de vous devant le Christ, pour ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous. » Comment ça, laisser à Satan l'avantage? Par le refus de pardonner. Il dit, je l'ai fait pour ne pas laisser à Satan l'avantage. Nous ne connaissons en effet que trop bien ses intentions. Dans Éphésiens 4, 26, 27, Paul y dit encore, « Mettez-vous en colère, mais ne commettez pas de péché, que votre colère s'apaise avant le coucher du soleil. Ne donnez aucune prise au diable. » Comment on donne une prise au diable, selon ce passage-là? En gardant la colère, en refusant de pardonner. Dans le monde spirituel, il y a une frontière. Cette frontière est invisible, mais bien réelle, entre deux royaumes. Le royaume de la lumière et le royaume des ténèbres. Le royaume de Dieu et le royaume de Satan. Lorsqu'on vient à Jésus et qu'on se repent réellement de nos fautes envers Dieu et qu'on crie à lui pour qu'il nous sauve de nos péchés et du châtiment éternel qu'il méritait, nous devenons des sujets du royaume de Dieu. La Bible nous dit que nous sommes transférés du royaume des ténèbres dans le royaume des lumières. Amen. Un enfant de Dieu scellé du Saint-Esprit, personne ne peut ravir de la main de Dieu, comme nous dit le Seigneur Jésus. Mais, si un enfant de Dieu choisit de désobéir à la volonté de son Père, il cède du terrain à l'ennemi. Il ne cesse pas d'être un sujet du royaume de Dieu. Mais il laisse un accès à l'intérieur de son cœur, une base d'opération à l'ennemi. Et c'est ça que Paul dit. On ne veut pas laisser un accès au diable. On ne veut pas laisser une base d'opération. Jésus le dit aussi dans Jean 14, 30. Il dit, juste avant sa trahison par Judas, il dit, « Le prince de ce monde vient, il n'a rien en moi. Il n'y a pas de prise sur moi. » Ou encore, « Le dominateur de ce monde vient, ce n'est pas qu'il ait une prise sur moi. » Dans une autre version. Voyez-vous, là? Jésus, il n'y a pas de prise. Mais ça veut dire que c'est possible de laisser une prise, pas pour Jésus, mais pour nous. Hébreux 12, 15 nous avertit, « Veillez à ce que personne ne passe à côté de la grâce de Dieu, qu'aucune racine d'amertume ne pousse et ne cause du trouble en empoisonnant plusieurs d'entre vous. » En fait, ce passage est une citation de l'Ancien Testament, de Deutéronome 29, 17, où Dieu dit à travers Moïse, « Qu'il n'y ait donc parmi vous personne, ni homme, ni femme, ni famille, ni tribu, dont le cœur se détourne aujourd'hui de l'Éternel notre Dieu pour aller rendre un culte à des dieux des nations. Craignez qu'il n'y ait parmi vous une racine d'où naîtraient des plantes aux fruits vénéneux et amers. » C'est de ce passage-là que Paul tire sa citation, dans Hébreux 12, 15. Veillez à ce que personne ne se détourne de l'Éternel, notre Dieu, pour aller rendre un culte à des dieux de nations. Voyez-vous comment ça se tient? On a parlé au début du cours de qu'est-ce qui cause les conflits. Hein? On a dit que c'était les désirs du cœur qui deviennent des idoles. Tout désir qui contrôle notre vie, qui n'est pas le désir de glorifier Dieu, ben c'est un idole. Et bien souvent, c'est ces désirs-là que Jacques dit, qui guerroient dans nos membres, là, qui causent les conflits. Mais Paul est dit, dans Hébreux 12, ben tournez avec moi si vous avez votre Bible, là. Dans Hébreux 12. Parce que, regardez le contexte dans lequel il donne cet avertissement-là. Hébreux 12, verset 14. Il dit « Recherchez la paix avec tous ». OK, la paix. On parle de relations saines où il n'y a pas de conflit. « Recherchez la paix avec tous et la sanctification ou de mener une vie de plus en plus sainte sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Dans la version sommaire, c'est « Faites tous vos efforts pour être en paix avec tout le monde et pour mener une vie de plus en plus sainte sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Veillez à ce que personne ne passe à côté de la grâce de Dieu » ou dans la version Louis II, « Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, qu'aucune racine d'amertume ne pousse et ne cause du trouble en empoisonnant plusieurs d'entre vous. » Qu'il n'y ait personne qui vive dans l'immoralité ou qui méprise les choses saintes, comme Ésaü, qui, pour un simple repas, a vendu son droit d'aînesse. Pratico-pratique, là. Quelles conséquences qu'on peut vivre? Bon, on a dit déjà la solitude, hein? On a déjà dit manque de liberté, manque d'impact, et on a déjà dit aussi d'être tourmenté. Mais ça, ces choses-là, là, ça nous amène encore plus loin. Parce que quand on n'a plus la relation, quand on ne jouit plus de la relation avec Dieu, quand on ne jouit plus de la grâce de Dieu, qu'est-ce qu'on essaie de faire? On essaie de remplir ça ailleurs. Et ça conduit à toutes sortes d'autres choses. C'est pour ça qu'il cite ici Ésaü et qui parle de immoralité sexuelle. Tu ne jouis plus de la liberté, tu ne jouis plus des relations, tu es privé du bien-être, tu souffres. Tu cherches à combler cette souffrance-là par d'autres choses. Et en plus, tu n'entends plus la voix de Dieu. Tu entends la voix de qui? Le monde et les bourreaux. Alors, eux, ils vont te conduire vers Dieu? Non. Leur but, c'est de te conduire vers le péché et vers la mort. J'aimerais vous lire un autre récit. C'est frappant, ces choses-là. On dit, ben oui, mais c'est quoi le rapport? C'est quoi le rapport entre refuser de pardonner et l'immoralité ici, là? Parce qu'il dit au verset 16, et qu'il n'y ait ni débauché, ou ni qui vivent dans l'immoralité. C'est quoi le rapport? C'est que Ça va nous mener à ça. J'aimerais vous lire l'histoire. Ici, Mme Demos a beaucoup d'expérience avec toutes sortes de conflits et de situations. Elle dit, « Le mari qui se sent méprisé par sa femme, au lieu de se tourner vers Dieu et de trouver refuge dans sa grâce, se laisse séduire par les avances d'une collègue de travail ou tombe dans d'autres péchés sexuels. Inversement, une femme méprisée par son mari peut expérimenter la même chose. Ce sont des exemples que j'ai rencontrés tant de fois. Ce n'est pas un cas isolé, là. C'est des choses qui arrivent communément quand on refuse de pardonner, quand on se prive de la grâce de Dieu. Ces personnes vendent leurs droits d'aînesse en échange de quoi? De l'esclavage, de la perversion, de la honte, des vies et des foyers brisés sur des générations. Dès lors qu'elles laissent croître la racine d'amertume, leur vie, et qui sait combien d'autres encore, est marquée par le dérèglement et la souillure. Wow! Elle parle de son expérience, là. C'est exactement ce qui est arrivé à un homme que j'ai rencontré. Lui et sa femme ont servi le Seigneur pendant de nombreuses années et porté beaucoup de fruits. Mais petit à petit, on va l'appeler Daniel, c'est pas son vrai nom, a laissé germer dans son cœur les graines sournoises de l'orgueil spirituel et de l'aveuglement sur lui-même. Voici ce qu'il m'a confié récemment en se rappelant cette période. Je ne me rendais pas compte que j'étais en train de donner accès à l'amertume et à la douleur. C'est sournois. C'est sournois. Effectivement, lorsque certaines opportunités de service ne se sont pas concrétisées comme il l'avait espéré, on parle de quelqu'un qui sert Dieu, là. On parle d'un enfant de Dieu, là. Parce que les opportunités qu'il voulait ne se sont pas concrétisées comme il l'avait espéré. C'est à Dieu qu'il en a voulu. Au lieu de se saisir de sa grâce et de traverser ses déceptions avec son aide, il a laissé l'amertume s'interposer entre lui et le Seigneur, puis entre lui et sa femme. Peu à peu, il leur a fermé son cœur, à tel point que l'ennemi, profitant de l'occasion, a commencé à l'assaillir de pensées de convoitise sexuelle. Ayant déjà choisi de résister à la grâce de Dieu, c'est là, là. Ayant déjà choisi de résister comment? Par le refus de pardonner. Je résiste à la grâce de Dieu quand je refuse de pardonner. C'est comme je dis, ton pardon, ça n'a pas de valeur, parce que si je comprenais vraiment la valeur de ton pardon, je dirais, OK, Seigneur, je pardonne aussi à mon tour. Mais ayant choisi de résister à la grâce de Dieu, il était une cible parfaite quand la tentation s'est intensifiée au point de le faire succomber. Il a accusé Dieu. Il rend Dieu responsable et est devenu plus amer encore. Mon entourage, raconte-t-il, semblait ne plus me comprendre et c'était comme si le Seigneur ne me répondait plus. Vous voyez, solitude. Le problème, c'était que dans mon orgueil et mon aveuglement, j'étais devenu profondément amer et j'avais ouvert grande la porte à toutes sortes de souillures. Wow! Il n'a pas fallu à ce stade attendre longtemps pour que cette racine d'amertume se transforme en un véritable adultère. Ensuite, dit-il, aujourd'hui, j'ai rejeté tout ce que je savais d'être bon et juste. Pour lui, ce qui était mauvais était devenu bon, le mal était devenu bien et le noir blanc. Maintenant qu'il s'est finalement laissé briser, maintenant que son cœur est repentant et qu'il commence à reprendre pied après cette longue et difficile traversée du désert, Daniel regarde en arrière et dit, « Je suis bouleversé de voir ce que cet orgueil et cette amertume m'ont poussé à faire. » Un exemple concret de ce que Paul dit ici, si on ne recherche pas la paix, si on se prive de la grâce de Dieu, si on laisse la racine d'amertume pousser dans notre cœur, ça va produire des fruits vénéneux. Ça va causer du trouble. Il parle de débauche et de profane, c'est-à-dire d'échanger ce qui est de valeur spirituelle pour ce qui est de valeur mondaine. De prioriser les choses du monde au lieu des choses spirituelles. C'est à ça que ça va conduire. Quand on se révolte contre Dieu en refusant de pardonner, quand on dit non dans notre cœur, on est en danger. Avant les fêtes, on avait une rencontre pastorale avec les pasteurs de la région. Et notre frère Jean-Philippe Lapierre nous a conté l'histoire de sa grand-mère Nita Cottemoir, qui était la femme de Gabriel Cottemoir, qui a fondé cette église ici. On l'a connue, Mme Nita, elle est décédée maintenant. Mais moi, quand je l'ai connue, elle était dans une profonde dépression. quand il arrivait ici, c'était comme un zombie. Hein? Puis après plusieurs années plus tard, elle est revenue, puis elle était revenue en vie. C'est incroyable, là. C'était jour et nuit, là. Mais au début, c'était comme une vraie zombie. Et Jean-Philippe a dit... 10 ans. Hein? Merci, 10 ans. Jean-Philippe a dit que sa grand-mère Nita savait exactement le moment où ce qu'elle a commencé sa descente. Et c'est quand? C'est parce qu'il y a des gens qui étaient méchants avec son mari, le pasteur. Parce que des fois, il y a des gens qui sont méchants. Mais elle a refusé de pardonner à ces gens-là. Et le refus de pardonner à ces gens-là l'a conduit pendant 10 ans. Et c'est lorsqu'elle a accepté de pardonner qu'elle a été libérée. Oui, oui, merci Robert. Elle les a appelés, elle a demandé pardon, elle a pardonné à toutes ces personnes-là qui avaient fait du mal à son mari. Voyez-vous, on se justifie. On dit, c'est pas correct ce qu'ils ont fait. Puis on dit, je suis correct de garder amertume dans mon cœur. Parce que ce qu'ils ont fait, ça a fait mal. On ne dit pas que c'est correct ce qu'ils ont fait. C'est pas ça, pardonner. C'est de prendre la dette qu'elle te doit puis de clouer à la croix comme Dieu a fait avec toi. Mais si tu refuses, bien, tu te places, tu sors de sous la protection des ailes de Dieu, tu ne bénéficies plus de sa grâce. Sa grâce est là. Lui, son cœur n'a pas changé. Comme Étienne nous a souvent enseigné, Dieu, son attitude, c'est toujours de grâce. Mais c'est comme un aigle qui couvre ses poussins. Hein? Même Jésus a dit au Jérusalem, « Combien de fois j'aurais voulu vous recueillir sous mes ailes, et vous n'avez pas voulu. » Tu te prives de sa grâce. Sa grâce est là pour toi, mais tu n'en bénéficies pas. Il veut te bénir, mais tu t'es mis en position de révolte contre lui, et donc tu ne reçois plus ses bénédictions. C'est pour ça que Paul dit que personne ne se prive. Voyez-vous, ce n'est pas Dieu qui te prive, là. Que personne ne se prive. Tu te prives de la grâce de Dieu. La grâce est là, mais tu te prives. Dans le psaume 91, qui m'est très cher, c'est marqué ceci, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur. » C'est qui l'oiseleur? C'est lui qui veut te piéger. « De la peste et de ses ravages. » Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Avez-vous l'image, là? C'est imagé, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas vrai. OK? Il prend des images. On dit, ah, c'est la poésie. Non, non, non. Oui, c'est de la poésie. Oui, c'est des images, mais ça illustre une vérité spirituelle bien réelle. Bien réel. En tant qu'enfant de Dieu, tu n'as pas le choix si tu veux grandir et expérimenter davantage la grâce de Dieu dans ta vie, dans tous les domaines. Il est impossible, selon ce que le Seigneur Jésus nous enseigne, de jouir de la bonté, de la bénédiction de Dieu sans pardonner comme tu as été pardonné. Reviens au refuge. Reviens à Jésus. Rappelle-toi de quoi il t'a pardonné et choisis de pardonner à ton tour. Prions. Oui, Seigneur, que ta parole ne retourne pas à toi sans accomplir tes desseins, sans exécuter ta volonté dans chacun de nos cœurs, dans chacune de nos vies. Merci pour cette parole, Père. Amen.